À une époque où règne la confusion.
Voici Les Buissonnières, l'émission mensuelle de la Maison de l'Écriture consacrée à la littérature en chantier, chez les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, en ville ou à la campagne, partout où le langage fleurit. Voici la dernière livraison des Buissonnières de cette année 2023, riche en émotions. Pour être à la hauteur de l'événement, j'ai invité Brigitte Nadal. Bonjour Brigitte.
Et bonjour Virginie.
Fidèle participante à l'atelier d'écriture régulier du jeudi soir, parce que son parcours atypique est riche d'enseignements. Parmi les 36 000 métiers que tu as exercés, tu as été métallurgiste, non ?
Métallurgiste à Montpellier, à Eurotol, ça s'appelait Eurotol, avant de devenir Alstom.
Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture ? Est-ce que tu écrivais déjà ?
Alors j'écrivais, c'est un bien grand mot. J'écrivais depuis l'enfance, en fait. J'ai toujours écrit, mais j'écrivais... comme tous les gosses qui veulent faire un peu de poésie, chanter des chansons et inventer leurs chansons, voilà. Donc ça n'avait rien d'extraordinaire. C'était pas simple, c'était pas facile, mais enfin c'était une passion en fait. J'ai noirci des cahiers d'histoires improbables, d'histoires de gosses, des histoires où j'avais des fabriques de bonbons, des tranches d'orange que je trempais dans du chocolat. C'était bien avant, puisque j'ai 65 ans, donc c'était bien avant le film Le chocolat. Quel est le gamin qui n'a pas fabriqué des bonbons dans des toilettes, exubérantes comme sous Louis XIV, dans des grands parcs, avec des grandes machines improbables où tremper des tranches de fruits dans du sucre. Enfin bon, c'était ça.
Tu avais quand même l'imaginaire très versaillais.
Versailles, mais pas que. Enfin, je me référais surtout à ce que je pouvais voir à la télé. Bon, c'était les premières séries qui étaient les gens de Mogador, enfin tout ça. Donc c'était voilà, je me référais à ce que je voyais et à ce que je lisais.
Et quand tu étais ouvrière, parce que c'est ça le petit mystère qui m'interroge, c'est quand tu étais ouvrière, où est-ce que tu placer l'écriture.
Alors quand j'étais ouvrière, ça commence avant d'être ouvrière en fait. Moi, je n'ai pas pu faire d'études parce que à l'époque où on choisissait par le conseil d'orientation, à l'époque où on choisissait son métier, mes parents n'ont pas voulu que je fasse des études littéraires. Moi, j'étais attirée par la littérature, je lisais beaucoup, et ils n'ont pas voulu parce qu'il n'y avait pas de débouché. Voilà. Donc, ma vie est devenue chaotique à partir de cette époque-là. Je me suis rebellée, bref, j'ai pris la vie, je ne l'ai pas prise dans le bon sens. Dans l'ordre en tout cas. Et du coup, je me suis retrouvée rapidement sur le marché du travail avec des gosses à charge. Et il fallait donc j'ai fait une formation. J'ai fait une formation, c'était les métiers de l'électronique. Et c'était une formation qui devait surtout m'assurer un temps complet et de quoi donc faire tourner la gamelle, de quoi faire chauffer la gamelle. Donc c'était ça le principal. Après que ce soit Alstom, pas Alstom, tout ça, la métallurgie ou pas, ça aurait pu être autre chose. Il fallait, c'était un choix alimentaire. Et ensuite, je me suis retrouvée à faire des pièces en série, donc en métallurgie. Et puis, quelquefois, je devais m'asseoir toute une après-midi pour frapper, emboutir des pièces, etc. Donc, je travaillais avec un casque. On avait l'autorisation de travailler avec un casque. Et là, comme j'avais toujours ce goût de la littérature et des beaux textes et de la culture, etc. Donc j'écoutais Radio Divergence, j'écoutais toutes les radios, les Coups de Garrigue, je ne me rappelle pas, mais il me semble que ça me parle. Et j'écoutais des gens dire des textes. J'ai écouté Anouk Grimbert, par exemple, qui, on doit avoir le même âge à peu près, qui lisait des textes fabuleux, et puis des bouquins entiers qui étaient radiodiffusés, des conférences, des débats. Voilà, j'écoutais tout ça en même temps que je travaillais. Donc j'avais l'esprit libre. Je travaillais. Finalement, je me suis instruite en temps masqué, qu'on appelle. Le temps que les mains s'activent, l'esprit reste disponible pour recevoir des informations. Et ça s'est passé comme ça.
Et quand est-ce que tu es passé à l'acte d'écriture ? Parce que là, tu es dans le rêve, tu es dans le nourrissage, tu te nourris des autres. À quel moment tu prends la plume avec le sentiment que tu la prends ?
Avec le sentiment que je la... Alors, plus j'avançais dans l'auto-apprentissage, je pourrais dire, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, moins j'écrivais facilement. Parce que je voyais bien la distance à parcourir pour faire des phrases dignes d'être lues, d'être écrites et lues. Il fallait que tout soit cohérent, tout marche en même temps. Tout avance, voilà. Il fallait que tout avance en même temps. Et du coup, moi j'ai fait du théâtre, c'est ce qui m'a aussi, c'est ce qui m'a gardé aussi dans cette sphère culturelle. Donc, d'une part, par le théâtre, j'avais l'accès aux auteurs et puis à la pratique, hein, à la pratique. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, la pratique artistique. Ensuite, la journée, je travaillais et j'étais toujours plus ou moins un pied dans la culture, puisque voilà. Et puis l'écrit, du coup, je l'ai laissé. Alors que quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup, mais je l'ai laissé parce que je sentais bien quand même qu'il fallait que je passe un cap pour rédiger de façon convenable. Mais quand même, l'écriture était là. Je me souviens quand je suis allée à l'école d'art dramatique à Béziers. Il y avait une jeune professeure qui était prof de littérature aussi, de littérature de France, prof de français, prof d'espagnol, prof de vieux français. Au même âge que moi, elle avait 10 tonnes de diplômes. Et un jour, elle m'a dit « Écris quelque chose ». Et j'ai écrit. Et ce que j'ai écrit, c'était l'histoire d'une vieille femme, je m'en rappelle encore, qui justement n'avait plus de mots parce que les mots ne lui servaient plus à rien, puisqu'elle était seule, elle était vieille et seule. Donc les mots, on s'en déshabitue aussi. Tous ses gestes, toute sa vie était ramenée sur des petits gestes quotidiens qui n'avaient pas besoin de mots. Donc, j'étais davantage... finalement, j'écrivais pour raconter des histoires de gestes. Voilà. Et elle m'a dit... Elle a été très encourageante. Pourtant, elle avait un niveau... vraiment un niveau... que je trouvais enthousiasmant, quoi. Enfin, j'en aurais rêvé de ce niveau, cette approche qu'elle avait. Et du coup, elle a été très encourageante. Elle m'a dit « Tu devrais écrire ». Bon, parce qu'elle a senti qu'il y avait beaucoup de sensibilité. Voilà. Donc, j'ai lâché sans lâcher. J'ai écrit, mais pour moi, pour avancer. Et un jour, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé, alors sur le tard, d'écrire pour être lu. Voilà, d'abord pour être entendu, puisque j'ai écrit une pièce de théâtre qu'on a tournée avec une collègue. Et qui s'appelait Béziers la nuit, puisque c'était sur Béziers, en période électorale, et on ne savait pas trop ce qui allait advenir. Ça nous paraissait improbable qu'une ville passe à l'extrême droite comme ça. Et c'était tellement surprenant que, et tellement peu, moi, dans mes convictions, que j'avais besoin de l'écrire. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, je pense, aujourd'hui, tout, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je n'habite plus sur Béziers, donc je ne peux pas savoir. Mais donc, j'ai écrit Béziers la nuit et on l'a tourné quelque temps. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire ces histoires de gens simples, de gens qui me ressemblaient finalement, qui étaient toujours confrontés à l'investissement d'une... Enfin, ce n'est pas l'investissement, ce n'est pas le mot. C'est ces gens que l'on met dans des cases... Et cases dans lesquelles il faut beaucoup d'énergie pour s'en détacher. Voilà. Ça, c'est toujours ça, c'est récurrent dans ce que j'écris. À partir de cette époque-là où j'écris ça, ça revient. C'est un sujet qui revient. Je parle beaucoup des classes sociales. On dit aujourd'hui qu'elles sont diluées, que c'est plus comme avant, qu'il n'y a plus de classes sociales. Et moi, je les vois, les classes sociales. Je les vois dans les codes, je les vois dans le comportement, dans la démarche. Je les vois partout, tout le temps. Donc, ça m'intéresse. Et depuis, donc, c'est depuis cette... Donc, ça fait une dizaine d'années que j'écris.
Est-ce que tu as un sentiment d'illégitimité ou simplement le sentiment que le code... totalement arbitraire ne t'a pas été donné?
Non, alors l'illégitimité, je l'ai eu de moins en moins. Je l'ai réglé de moins en moins. Je l'ai eu parce que je l'ai eu très fort, en fait. Je l'ai eu très fort par le théâtre parce que il y avait des... Je faisais du théâtre avec l'espace de la jetée avec Jocelyne Carbicael et puis toute la troupe de théâtrelles. Et elle... Elle avait une façon de nous faire aller vers le théâtre très démocratique, très, très large. Elle avait une vision très large du théâtre, tout en étant très féministe. Donc là, il y avait quand même... C'était un drôle de milieu, parce que c'est un milieu quand même de progressiste. Hein, voilà, c'est un milieu progressiste, le théâtrel à Montpellier, en tout cas, avait cette réputation-là. Et pourtant, dans ce milieu-là, il se trouvait des gens qui se demandaient comment on pouvait faire du théâtre sans être intermittent, comment on pouvait être payé sans être intermittent. Et je me suis trouvée confrontée à ça, parce que moi, je travaillais à l'usine la journée. Le soir, je faisais du théâtre. Et jusqu'au jour où elle m'a proposé de faire partie de la troupe complètement, et on a tourné un Annon donc, dans toute la région. Et c'était mes premiers pas en tant que professionnelle. Et ce que ça pouvait agacer des gens qui étaient... je sentais que ça les mettait en colère qu'une espèce de gueuse de 40 balais arrive comme ça en disant à la fête au printemps des poètes et tout, arrive avec des textes, alors qu'elle n'était même pas intermittente. Et ça, je l'ai pris de plein fouet. J'ai dit, waouh, c'est compliqué. Et j'ai persévéré. Malgré tout, j'avais 40 ans passés quand j'ai mis mon pied dans le professionnel. Et j'ai persévéré même en montant mes petites formes, mes formes de théâtre, parce qu'il y avait des auteurs que je voulais absolument jouer. Alors j'étais gonflée, d'une certaine façon j'étais gonflée. Il y avait un texte qui me plaisait, je téléphonais à l'auteur. Parce qu'avec les éditions, on sait les coordonnées de l'auteur. Enfin, quelquefois, c'est eux qui nous répondent, mais quelquefois, ils nous balancent le téléphone ou le mail de l'auteur. Et comme ça, j'ai eu Yves Pagès au téléphone. J'ai monté Portrait craché, qui était moi qui me parlais, parce que c'était des portraits que je pouvais rencontrer à l'usine, au quotidien, ça me parlait à moi. Donc du coup, voilà, je téléphonais à l'auteur, je lui disais qui j'étais, que je n'étais pas connue, et que je voulais monter son texte, etc. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir ces auteurs-là qui me plaisaient, qui étaient hyper disponibles et gentils. Enfin, quand je dis gentil, pour moi, ça veut dire quelque chose. Bienveillant, voilà. Bienveillant, qui disait, mais vous avez le texte, allez-y. Régalez-vous. Voilà. Et donc, cette illégitimité que je pouvais ressentir s'est réglée un peu parce que j'ai rencontré aussi des gens ouverts, des gens qui me demandaient pas mon statut professionnel, qui s'en foutaient.
Et peut-être que si tu avais eu les codes de la profession, jamais tu n'aurais osé faire un truc pareil.
Oui, je pense que oui, j'allais, comme disait le professeur de dramatique que j'avais, qui était hyper diplômé, alors qu'au même âge, moi, j'avais un BEPC, quoi, et j'étais dans le cours de théâtre. Elle me disait, ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous avez un regard neuf sur les choses, vous disiez, et je comprends ce qu'elle voulait dire. Ça a été un peu ma chance. La naïveté, ça peut être une chance.
Est-ce que c'est de la naïveté ou est-ce que c'est un regard qui vient d'ailleurs, un regard qui vient d'un autre milieu ? Parce que en fait, la culture est en grande partie assumée par des enfants de l'élite culturelle qui se reproduisent, qui font des études, etc. Et donc, précisément, quand il y a quelqu'un de complètement un ovni, quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un autre regard et c'est ça qui est intéressant.
Oui, alors c'est vrai, il y a des, c'est là que je dis, il y a des codes. C'est vrai que moi, je j'étais jamais dans la bonne case. Voilà, j'ai jamais été dans la bonne case. Par exemple, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais 18 ans donc, hein, mais ma première année, je devais avoir... Donc c'était déjà tardif. Pour quelqu'un qui... Voilà, c'était considéré comme tardif. Voilà. Mais je me souviens que Céline, qui était le professeur de théâtre à ce moment-là, avait sorti une statistique en disant que les enfants qui réussissaient le mieux au théâtre étaient des enfants de profession libérale et des enfants d'ouvriers. Alors, je ne correspondais pas. Moi, j'étais fille de fonctionnaire. Quand je dis fonctionnaire, c'est vraiment la poste, enfin, c'est pas les hautes fonctions, quoi. C'est fille de fonctionnaire. Et donc, ça ne correspondait pas. Donc, déjà, je me suis sentie trahie par ma généalogie, déjà. Donc, j'ai dit, mince, il va y avoir un problème de plus. En plus, voilà-t-il pas qu'on me fait perdre un accent, parce que moi, j'avais un accent terrible, comme tous les gens d'ici, puis j'habitais 6 ans à Marseille, donc j'avais un accent terrible, avec une façon de parler, sûrement, voilà. Et donc, elle m'a fait perdre l'accent, enfin, c'était pas à moi, personnellement, c'était les cours qui étaient comme ça, il fallait pouvoir jouer un peu de tout, et donc neutraliser ce qui dépassait le plus, voilà. Donc on m'a neutralisé à ce niveau-là, et si bien que, comme j'étais très bosseuse, j'encapais tout, j'étais une éponge, donc j'avais plus d'accent, j'avais plus rien, donc... Et là, un jour, je croise des gens. Je croise des gens dans le milieu de gauche de Béziers, un milieu de gauche, extrême gauche, hein, puis des gens très créatifs, qui avaient des idées. Voilà, donc je croise des gens qui me disent « Ah viens, c'est bien que tu fasses du théâtre, viens avec nous, on va monter des pièces de théâtre à Murviel, je crois que c'était un truc comme ça ». Alors, moi, j'avais 19 ans, 20 ans, j'étais enthousiaste. Dès qu'il y avait un projet quelque part, je fondais dessus. Donc, j'ai dit oui, ok, j'y vais. Et on monte un jeu d'enfants, je crois que c'était des Remo Forlani. Je ne sais plus si c'est exact comme un jeu d'enfants, il me semble, ça s'appelle. Bon, bref, c'était une pièce assez engagée. Et du coup... Il m'écoute, il me teste, il m'écoute, et je sens quand même qu'il y a une gêne, donc je demande pourquoi. Ils ne me disent pas tout de suite, font traîner la gêne, donc je commence à avoir froid, quoi. Je dis, c'est quoi cet accueil glacial ? Et puis, il faut qu'on te parle, Brigitte, donc nous sortons. Enfin, nous nous interrompons, nous sortons. Et là, comme si c'était vraiment un tribunal, ils viennent tous et puis ils nous disent « ça pourra pas aller, tu n'as pas d'accent ». Nous, ce qu'on voudrait, c'est que tu aies l'accent. On veut faire du théâtre engagé, du théâtre de rue pour la rue. Alors j'ai dit, mais le théâtre engagé, c'est quoi le théâtre engagé? Alors elle me dit, ben, c'est du théâtre où il faut parler comme tout le monde, avec l'accent, voilà. Et je me suis trouvée embêtée parce que je ne pouvais pas, du coup, j'étais comme j'étais. Enfin, je ne pouvais pas d'un coup retrouver tout ce que j'avais. Mais ils m'ont virée, alors que je n'étais pas payée, rien du tout. Ils m'ont virée de la troupe parce que je n'avais pas d'accent. Et c'est les mêmes personnes qui ont monté après au Les Magazines, voilà. Et j'étais, alors là, j'ai été très en colère. D'abord, j'ai pleuré. Parce que c'est
humiliant.
C'était très humiliant.
Ben oui.
Et puis j'ai été très en colère. Et j'ai dit, l'école d'art dramatique, pour des gens communs, c'est quand même une gratuité, quasi une gratuité. Hein. C'était peut-être la carte à l'année qui devait coûter, je ne sais pas, 15 francs ou 20 francs. Quoi. Mais tout était gratuit. Et moi, il n'y a rien de plus engageant que l'ouverture vers un art, que la pratique d'un art, gratuit. Voilà. Donc, j'ai été, en même temps, c'était bien de rencontrer ce genre de personnes un peu... Enfin, c'était quand même assez ubuesque.
Tu as au moins appris une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas être ce qu'on te demande d'être, mais être toi.
Mais oui, voilà. Voilà, et tout ça, c'est pour te promettre les cases, les bonnes cases, les pas, voilà.
Bon, et après ce long parcours de désir des autres en désir des autres, tu es arrivée à toi-même. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton écriture aujourd'hui?
Alors, l'écriture aujourd'hui. Alors, j'ai l'écriture publiée, auto-publiée, hein, parce que moi, je suis auto-publiée. Je ne suis pas éditée. J'ai même pas, pour le premier roman que j'ai écrit, qui était une modeste œuvre de 360 pages sur l'initiation artistique, donc d'une enfant que j'ai choisie, une Française, mais d'origine immigrée, donc une Yamina qui veut apprendre le violon. Donc ça m'a servi pour régler un peu les comptes de toute cette approche artistique quand la volonté est confrontée aux cases justement dont tu parlais. Et voilà, c'était pas simple, c'était passionnant. Ça m'a pris 4 ans. Après le travail, puisque je travaillais encore, hein, je travaillais pour la culture, voilà. Mais c'était passionnant. Donc, après ce roman, qui est ce qu'il est, que j'adore comme un petit, quoi, comme un, voilà, j'ai décidé de ne faire que ça. Donc, j'ai demandé ma retraite à 62 ans, puis comme j'ai du nez, je sentais bien quand même qu'il allait se passer quelque chose au niveau du... Voilà, donc j'ai dit, un vaut mieux que deux, tu l'auras, hein, et puis pour ne faire que ça, pour écrire. Et ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est en fait un mélange de théâtre et d'écriture. Le théâtre, il faut observer beaucoup, beaucoup. Il faut écouter, il faut observer, il faut analyser. Et c'est ce même travail que je prends pour l'écriture. J'observe, je prends des notes. Il y a des portraits qui vont tout seuls, il y en a d'autres qui sont plus surprenants.
Parce que tu fais des portraits surtout.
Je fais des portraits, c'est ce qui m'intéresse. Bon, après, il y a du moi fictionnel dedans, comme Clémentine. Clémentine qui est autodidacte et qui se réveille un peu tard, qui est une tardive. Donc voilà, il y a un peu de moi fictionnel, mais sinon ce qui m'intéresse, c'est les autres, parce que le soi passe par les autres de toute façon, et vice versa.
Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et tu voudrais nous lire un extrait de ton œuvre en cours?
Non.
comment dire, grande coquette, va.
Allez. Allez, c'est parti. Je l'ai préparé, c'est pour ça que je me suis sentie le luxe de dire non. C'était bien, c'était bien. Donc, c'était La Gambille de Clémentine. C'est un extrait. Dans le salon de Clémentine, dressé par taille contre le mur, les livres s'alignaient, vent debout, tranches astiquées pour la revue militaire, prêtes à soutenir plus que jamais l'intime combat qui se disputait au plus profond de la conquérante. Une lutte quotidienne qui ne pouvait déboucher que sur une magistrale victoire. Une victoire qui couronnerait l'idéal Clémentine, l'allégorie d'elle-même, son moi sublimé. En possession de toutes ses facultés, elle aurait alors l'attention méritée. On la consulterait, on l'entendrait, on la désirerait. Elle aurait sa place, enfin, dans le cénacle vertueux des gens de lettres. Oh, l'obstination ridicule dans cette poussée vers la lumière! Et comme l'étoile inaccessible limite le laser des yeux. Et remontons le temps. Brevet en poche, cloué sur la chaise du conseil d'orientation, encadré est-ouest par les trognes graves des parents, Clémentine fut, comme des milliers d'autres élèves, soumise à la question. Quelle filière évoque bien l'idée d'élevage intensif, quelle filière souhaitait-elle prendre? Avant qu'elle ne puisse bafouiller son désir d'écriture qui était, selon André Mignot, sa mère, tout son fin métier, elle se trouva assaillie d'avis éclairés qui, de boucher en débouché, de débouché en dérivation, évacua sans autre état d'âme ses ambitions d'écrivaine. Ta 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 ta, éluda le couple d'une seule voix, les rêves c'est bien beau, mais la vie c'est autre chose. Bouillonnante, indisciplinée, romanesque, sa nature n'allait pas dans le sens des études. Te rends-tu compte du temps et de l'argent gaspillé pour une activité dont tu n'es même pas sûre qu'elle soit un jour rémunératrice? La conseillère d'orientation approuvait de la tête, puis souligna, embarrassée par la véhémence de la mère, le caractère aléatoire de ce type de carrière. Aléatoire, c'est cela, aléatoire. Et rien n'est plus incertain que l'aléatoire, ma fille. Toutefois, l'appréciation de son professeur de français, élève très intéressante quand elle ne remue pas, fut avancée plusieurs fois par la conseillère tout de même compatissante devant l'écrasement précoce de cette grande destinée. Mais la mère balaya le faible argument d'un haussement d'épaules. Quand elle ne remue pas. Cette restriction conclut un verdict irrécusable, on lui choisirait un vrai métier. Et d'abord, il fallait brider à tout prix toute cette exubérance, museler sa fantaisie, convertir la créature fantasque en femme rationnelle et pragmatique. Bref, il fallait faire entrer dans son crâne un peu plus de calcul et moins de poésie. Monsieur Mignot, moins sévère, se rangeait cependant derrière la vie tranchée de sa colonelle de femme, la paraphrasant avec plus de diplomatie. C'est qu'il lui reconnaissait une droiture et un bon sens qui quelquefois lui faisaient défaut. D'un même cœur, ils annonnèrent pour les cervelés le nombre croissant de chômeurs, la vertu de l'effort, la conjoncture économique actuelle, la stabilité d'une paix régulière, la noblesse des métiers manuels, la pénibilité et l'abnégation ayant, dans ce milieu conservateur, leur lettre de noblesse. « Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sottes gens », débitait sa mère à intervalles réguliers, voulant à tout prix l'arracher à la sottise. Le chapelet des arguments eut raison de l'adolescente et la réformée avala ses prétentions jusqu'à la nausée. Le sentiment de frustration, l'injustice qui lui était faite, sa nature rebelle et toute cette énergie qu'elle avait tant de mal à canaliser, tout cela devint, en fusionnant, matière inflammable. elle s'y brûla avant les autres. À 16 ans, elle avait exploré la liste de tout ce qui la conduisait à sa perte. À 18 ans, elle mit au monde une marmousette, Solène, fruit magnifique du péché. À 19 ans, elle loua son premier appartement, suivit une formation et dégota un emploi. C'est que, dans la nuit opaque où son ventre se trouva torturé par 1000 tarières, entre deux contractions, elle avait repéré la lueur miraculeuse d'une minuscule bonne étoile et se jura bien de s'y accrocher de toutes ses forces. Si elle fit face avec courage aux impératifs maternels, au fur et à mesure des années, le sentiment étrange d'être passé à côté de son destin poursuivait la jeune femme. Quand elle pensait à la fabuleuse, pour le moins, écrivaine qu'elle aurait pu être, à condition d'avoir su imposer ses choix, elle en trépignait de rage. N'y tenant plus, elle s'acheta une machine à écrire et, le soir venu, Solène endormie, elle s'activa dans des récits aux personnages tourmentés, déchirés par d'injustes décisions arbitraires. Elle raturait, recommençait, froissait, remaniait ses textes 10-20 fois. Si son imagination était volubile, ses écrits se heurtaient vite à la barrière lexicale, ainsi qu'aux conventions narratives. Le résultat restait d'une confusion confondante, et comme elle n'était point sotte, elle s'en affligeait. C'est ainsi que la revancharde prit peu à peu les itinéraires bis d'un enseignement qu'on lui avait si injustement refusé. Consciente de son manque de culture générale, elle se mit à lire, selon des listes établies par quelques initiés. Se prit de goût pour les films d'auteur, courut les théâtres, les lieux de conférence, les auditoriums, les cafés philo. Elle s'offrit de vieilles éditions Hatier, s'absorba dans les sciences humaines et l'histoire de l'art. Elle sondait, prélevait, convaincue de la réparation miraculeuse qui allait s'opérer. Parfois, elle refermait les ouvrages des premières pages, désarmée devant les congères de mots et concepts inconnus qui s'amoncelaient en marge de ce cursus auto-planifié. Mais elle gagnait du terrain sur sa part d'ombre. Tout ce vrac accumulé prenait forme, s'articulait, dessinant une constellation mystérieuse dont elle pouvait suivre les trajectoires. Elle n'avait aucun tabou, pouvait passer de l'ésotérisme le plus opaque au réalisme poétique le plus limpide, en passant par la bande dessinée et la science-fiction. S'il arrivait encore qu'un ouvrage complexe la laissa vaincue et vexée, sur le seuil d'une révélation, tout essoufflée d'avoir grimpé jusque-là les étages, elle le reposait et concédait des limites à son entendement. De même, elle reconnaissait, pour qui aurait pu lui en faire reproche, qu'elle refermait volontiers un livre d'un intérêt peut-être indiscutable, mais qu'un style trop fouillé ou trop plat repoussait. Sur sa table de câblage, la fabrication en série de pièces électroniques et mécaniques lui permettait le port d'écouteurs. Les mains s'occupaient à dresser et dénuder des faisceaux de fils électriques, les oreilles grandes ouvertes et l'esprit ailleurs. Ainsi, d'actualité culturelle en débat, de conférences en textes d'auteurs radiodiffusés, elle accédait jour après jour au monde des idées. Une fois chez elle, elle faisait appel à sa mémoire, noircissait des cahiers entiers de citations, d'extraits de textes, bouts de phrases, qui rebondissaient avec enthousiasme dans son esprit enfiévré. L'enfer aujourd'hui, c'est le non-accès à la poésie. Comment doit-on vivre? Que puis-je savoir au regard de l'éternité? Nettoyer l'autre côté de nous-mêmes, atteindre ces régions rares où l'âme prend intérêt à tout parce qu'elle n'est rattachée à rien. Elle consignait les noms d'auteurs, leur accolait un astérisque lorsqu'elle voulait en savoir davantage. Elle écrivait « Lire Socrate sur l'intégralité
Lire Socrate sur l'interrogation et la dialectique. Lire Platon qui continue l'enseignement de Socrate par l'intellectuel au-dessus de tout. Aristote pousse, lui, à l'investigation des champs multiples de l'expérience. Il faudra lire les cyniques, les sceptiques, les épicuriens, les stoïciens et Lucrèce de la nature des choses. Machiavel et ses traités sur la politique. Note sur la démocratie de Henri-Louis Mencken, que je peux trouver chez Dissident Book, édition 2008. Attention, tout est en anglais. Voir ce qu'est un anarchiste de droite et un anarchiste de gauche. Lire la tragédie de l'émancipation féminine d'Emma Goldman, édition Syros. Je dois me procurer Jean-Marie Pelt et son « Religion et écologie ». Et vers une écologie de l'esprit de Grégory Bateson. L'homme hérissé de Yves Pagès aux éditions de la Baleine. Revenir à l'histoire naturelle de Pline et Anna Arendt, la pensée totalitaire et anthropologie structurale de Lévi-Strauss, etc. Elle s'enivrait de mots, se saoulait par avance de toutes ces lumières célestes qui l'amèneraient jusqu'à son double augmenté. Cependant, elle n'avait aucune mémoire des dates, faisait entrer une fin de siècle dans le début du suivant, mélangeait les écoles, perdait un temps fou à lier une écrivaine, un philosophe à sa période ou à son courant. Elle allait dans tous les sens, empilée au tout venant, attribuer une citation à un auteur voisin, se décourageait de ce que sa magnifique nébuleuse se diluait peu à peu en un magma indistinct. Elle se mettait alors en quête d'une organisation plus efficace, se promettait 1000 disciplines, classait, ordonnait, listait tant et tant d'auteurs, tant et tant de titres qu'il lui aurait fallu 10 vies pour en venir à bout. Ses résolutions de lecture s'enfouissaient les unes sous les autres. Elle perdait son but des yeux. Sa mère lui aurait dit « tu as les yeux plus gros que le ventre ». Son père « tu as un cœur d'artichaut ». C'est cela. Elle avait un cerveau d'artichaut.
C'est magnifique et assez tragique au fond. Hein, c'est assez tragique.
Je ne sais pas si c'est tragique pour l'Est. Peut-être ça l'était. Ouais.
En tout cas, dans le texte, l'aboutissement de toute cette énergie de Clémentine est tout de même un peu tragique.
Et,
Et c'est sur cette note en demi-teinte que nous terminons Les Buissonnières. L'émission mensuelle de la Maison de l'Écriture que vous pouvez retrouver sur RPH et RPH Sud le deuxième mardi du mois à 10h et le dimanche qui suit à la même heure.